Bonsoir à toutes et à tous, c'est Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canu, comme toujours, les mercredis jusqu'à 21h. A tout de suite. Eh bien, rebonsoir à tout le monde. C'est Idées Noires, donc sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et on démarre toujours, comme à l'habitude, par des annonces.
Par les annonces, c'est importantes. Oui, on l'espère. Après, on verra si vous trouvez ça important ou pas. Une annonce pour demain. Oui, on est le 5. On est le 5 aujourd'hui, donc demain, on est le 6. C'est un rassemblement de soutien pour une inculpée du mouvement contre la loi travail. Il va en avoir énormément dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc c'est D qui a été arrêté le 11 mai à l'issue d'un rassemblement contre la loi travail. Il est accusé d'avoir participé à la manifestation sauvage du 10 mai, jour de l'usage du 43, du 49-3, enfin du premier 49-3 par le gouvernement, et d'avoir jeté un caillou sur un poste de police. Pour ce geste, elle a été sévèrement condamnée en première instance, 6 mois avec sursis et, ni plus ni moins, on en a déjà parlé, hein, mais 14 000 euros de dommages et intérêts. Tout ça pour les vides d'un comico pour lesquels ils sont sûrement assurés. Mais le parquet n'étant pas satisfait, bah, il a fait appel et un nouveau procès va se tenir donc demain à partir de 13h. Donc il faut être nombreux et nombreuses pour la soutenir. Voilà, il y a eu de nombreux arrêtés. Et là, du coup, quand même 6 mois de sursis et 14 000 euros hein, de dommages et intérêts pour le poste de police municipale. Un truc qui ne sert à rien et du coup, auquel on va faire payer 14 000 euros une personne. On le répète, hein, c'est sûrement un bâtiment qui est assuré. Et donc du coup, ils ne vont rien payer de leur poche, hein, ces braves policiers municipaux. Mais du coup, on préfère condamner quelqu'un pratiquement pour quelques années, hein, parce que 14 000 euros, voilà, il va falloir y aller hein, pour rembourser tout ça. Il faudra quelques quêtes, et puis voilà, donc ça fait une condamnation sur plusieurs années, en tout cas, pour rembourser tout ça. Donc on espère qu'il y aura du monde demain devant le tribunal, donc c'est à partir de 13h. Alors c'est pas le TJ, hein, comme d'habitude, qui est rue Servian, mais là, comme c'est un appel, et ben du coup, ça se passe au 24 colonnes, hein, rue du Palais de Justice, métro Vieux-Lyon, hein, chez nos amis les Bêtes, là-bas. Donc ce sera à 13h, voilà, il faut être nombreux et nombreuses pour la soutenir, même si ça va être compliqué, hein, au niveau du procès, et puis au niveau de... tu grimaces... Ça va être compliqué au niveau du procès, puis au niveau de la peine. Parce que des fois, le problème avec les appels sur Lyon, c'est que déjà, quand tu fais appel toi, quand t'es condamné à quelque chose, généralement, c'est pire ce qui t'arrive après. Là, c'est le parquet en plus qui fait appel. Donc, on a un peu peur de la suite. Mais voilà, plus on sera nombreux et nombreuses là-bas, peut-être moins il y aura de risques pour sa condamnation. Je te laisse, du coup, enchaîner sur la suite.
Je vais enchaîner. Je découvre, en ce moment, j'espère que je ne vais pas trop me planter, mais enfin, on peut toujours retrouver
tu
ça sur Rebellion, hein, ces annonces, évidemment. D'abord un rassemblement, c'est le samedi 8 octobre autour des résistances au grand projet de ville imposée. Donc c'est à Vaux-en-Velin, c'est un rassemblement, donc c'était à l'initiative des précaires et d'une association là, qui va se retrouver à la rue. Hein. Je l'avais annoncé déjà il y a 2 semaines, je crois. Il y avait déjà eu un rassemblement. Donc ce samedi 8 octobre, c'est un autre rassemblement à partir de 10h au Mât du Taureau à Vaux-en-Velin. Donc autour des résistances, comme je l'ai dit, au grand projet de ville imposée et au grand projet d'aéroport imposé, puisque c'est un mixte qu'il y aura avec la ZAD donc, de Nantes là, à défendre, cette zone à défendre, voilà, la NDDL, Notre-Dame-des-Landes, on en reparlera après. Donc il y a des prises de parole hein, qui sont prévues, témoignages, il y a une sono de prévue aussi, c'est précisé, donc je l'indique. Et il y aura aussi un pique-nique à 13h au Mont Gerbier et Mont Cindre. Alors venir, c'est indiqué aussi dans cette annonce, avec son panier à partager avec les habitants du quartier, etc., etc. Il y a une autre aussi annonce qui est très sympathique. à mon avis, puisqu'il s'agit des logements qui sont vides à Lyon et qui sont comptabilisés, il y en aurait environ 30 000 logements vacants à Lyon, alors qu'il y a 2 000 à 3 000 personnes qui sont à la rue. Donc c'est une, je pense, un collectif, quelque chose comme ça, qui propose de taguer tous ces appartements, ces immeubles où se trouvent des logements libres, vides, prêts à être habités, évidemment, tout équipé. Hein, il n'y a plus qu'à rentrer dedans, en fait, voilà. Alors, c'est une proposition, hein, ce qui m'a semblé, sur la lecture du texte. Voilà. C'est tout ce que je voulais.
Voilà.
voilà.
En gros, après, il précise bien, du coup, de bien se renseigner si avant si c'est bien un logement vide. Et puis de taguer ces logements-là pour dire qu'il y a des gens qui pourraient y habiter. Hein, voilà. Donc, il y en a, comme tu l'as dit, hein, les chiffres 20-30 000 au moins sur Lyon. Mais c'est au moins, hein, parce que voilà, il y en a peut-être beaucoup plus, en fait.
C'est énorme. Hein.
Il y avait un recensement qui avait été fait il y a 2 ans. Je pense que ça n'a pas dû bien bouger sur le nombre de logements vides sur la métropole. Et donc, du coup, voilà. Comme on va arriver bientôt. Avant la trêve hivernale, il va y avoir beaucoup d'expulsions. On en a parlé la semaine dernière avec l'expulsion là, du squat à Villeurbanne. Et donc voilà.
Il y a des propositions hein, de pochoirs.
C'est ça, voilà, exactement.
Donc, bien visible. Donc il faut bien attaquer dans ce. Voilà, il faut dénoncer tout ça, quoi. Voilà.
Et du coup, une autre petite annonce, si vous êtes sur Paris, ça se passera donc demain, pareil, le 6 octobre, si vous êtes sur Paris. Hein. Il y a un rassemblement Gare de l'Est contre la répression antisyndicale. Je vous lis le petit truc. À la SNCF, la curée continue après Édouard à Paris-Saint-Lazare. Il y a 2 mois, voici Alain, également syndicaliste à Sudrail de la Gare de l'Est. Donc Alain, qui est délégué syndical, est convoqué devant le conseil de discipline pour son rôle moteur dans la mobilisation contre la casse du statut de cheminot et la lutte contre la loi travail. La direction de la SNCF multiplie donc les procédures revanchardes contre les syndicalistes de lutte. Ceci d'autant plus que Sudrail est l'unique syndicat à avoir fait valoir son droit d'opposition au niveau statut de cheminot. Donc il y a un rassemblement le 6 octobre. Gare de l'Est à 13h, on ne se moque pas. Et si vous êtes du côté de Montpellier, il y a aussi un rassemblement devant la préfecture, il me semble que c'est à 14h, alors 13h ou 14h, vous allez vérifier les infos là-bas, notamment sur le site de la CGA Lyon. C'est à Montpellier, n'importe quoi le gars. Et donc du coup parce qu'il y a la Ligue du Sud, donc pas mouvance fasciste du coup qui a des élus dans la région PACA et les identitaires qui manifestent et qui font une manifestation comme c'est la mode en ce moment anti-migrants et migrantes, voilà pour ne pas accueillir quelques dizaines de migrants et migrantes sur la région. Et donc du coup ils manifestent sur Montpellier et comme le collectif là-bas, il y a un collectif Antifa plus diverses organisations et individus qui marchent plutôt bien, qui réagissent assez bien sur ce genre de truc, et ben du coup il y a un appel à contre-rassemblement. Voilà, ça se passera à 14h Montpellier, il me semble que c'est devant la préfecture. Donc voilà, si vous êtes dans le coin ou si vous voulez y aller, c'est pas très loin en voiture, n'hésitez pas. Et le soir en plus il y a
toute la France, c'est sûr qu'il y a du monde à Montpellier.
Et le soir à Montpellier, il y a une petite animation, c'est ça aussi, comme ça vous pouvez rester pour la soirée.
A priori oui, il y a le Carnageval si
voilà. Carnageval, voilà, qui est un petit carnaval un peu agité, comme on peut l'entendre, enfin, qu'on peut le supposer, du coup, il faut emmener ses feux de mortier, ses feux d'artifice, etc., etc. Bien évidemment, ce n'est pas déclaré, et ça va être un petit peu la fête. Donc voilà, on voulait faire un petit point avant la première pause musicale sur Notre-Dame-des-Landes, et je crois
Je ne sais pas.
Ah, mince. Et je crois que c'est à vous.
Je crois que c'est à moi. Bon, bah, du coup, je vais lire le communiqué qui vient de...
Tout à fait. Bah, du coup, du site hein, zad.nadir.org.
Du coup, le site de la ZAD, pas la CIPA. Acculé par les mobilisations massives des 9 janvier et 27 février, le gouvernement a organisé en juin une consultation biaisée. Se croyant fort du résultat de cette mascarade, les pro-aéroports et le Premier ministre ont confirmé leur intention de procéder cet automne à l'évacuation et à la destruction de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, de ses cultures, de sa faune et de sa flore, de ses habitats et activités, ainsi que des liens entre toutes celles et ceux qui se sont attachés à ce bocage. Ces déclarations font fi de la situation juridique du dossier, puisqu'entre autres les autorisations de travaux ne sont toujours pas accordées. Les porteurs du projet ne semblent pas avoir non plus mesuré la détermination de celles et ceux qui habitent ce bocage, des militantes et militants engagés à leur côté, le soutien dont ce mouvement bénéficie dans la région et bien au-delà, ainsi que de l'implication des comités locaux. Ces 2000 hectares de bocage et ceux qui s'y vivent aujourd'hui, sont aujourd'hui porteurs d'espoir indéracinables face au saccage du vivant, des terres agricoles et à la marchandisation du monde. Il est impensable qu'ils disparaissent. À l'initiative de l'ensemble du mouvement d'opposition au projet d'aéroport, nous marquerons donc le 8 octobre notre volonté commune d'empêcher toute agression contre la ZAD et tous les démarrages des travaux. En écho à bien d'autres luttes paysannes, comme la lutte au Larzac, nous ferons résonner le sol de milliers de bâtons. Nous les laisserons sur place, en nous engageant ensemble à venir les reprendre en cas d'intervention et à défendre la ZAD, ses habitantes et habitants, paysannes et paysans, et l'avenir qui s'y construit. Nous montrons également ensemble un hangar dont les éléments ont été fabriqués durant l'été sur la ZAD par des dizaines de charpentières et charpentiers. Cette œuvre collective concrétisera notre volonté de nous organiser pour la résistance en créant un lieu qui sera une base d'appui en cas de tentative d'expulsion, autant qu'une structure commune pour le futur. Donc l'appel est un appel à converger vers Notre-Dame ce week-end, le 8 octobre. Rendez-vous à 10h dans le bocage, donc à la ZAD directement, à pied, en tracteur, à vélo, en voiture, comme vous voulez, que chacune ou chacun apporte
tracteur,
son bâton.
J'aimerais bien.
Et voilà, donc on espère qu'il y aura du monde là-bas.
Donc week-end chargé, hein, donc vous serez soit à Montpellier, soit Notre-Dame-des-Landes. Et puis si jamais vous êtes ni sur Montpellier, ni sur Notre-Dame-des-Landes, et vous êtes resté sur Lyon, je crois que si l'évacuation est confirmée et commence ce week-end, il y a un rassemblement qui est appelé par quelques organisations, donc ce samedi 8 octobre à 18h devant la gare de la Pardieu.
Oui. Voilà.
Enfin, devant le centre commercial, devant la gare, enfin, en tout cas sur le parvis.
Ouais, j'ai lu devant la Pardieu, voilà, mais ouais. Après, ouais.
Donc, voilà, pour protester de Lyon, voilà, sur l'éventuel, enfin, la future, parce qu'on sait que ça va sûrement avoir lieu, hein, évacuation de Notre-Dame-des-Landes.
Ah bah, de
mais il y aura du monde là-bas, je pense, pour protester.
De toute façon, il y a 2000 forces de police prévues pour aller évacuer la zone, donc effectivement, oui, ça va arriver. On ne sait pas exactement quand encore, mais.
Bon, je n'arrête pas.
Tarder.
Tape sur la table. Du coup, juste avant la petite pause musicale, on va faire un petit point sur le rassemblement qui a eu lieu du coup il y a 3 jours, donc dimanche, place des Terreaux.
Oui. Alors, rassemblement à propos en fait de l'IVG, toujours menacé en Europe, chez nous aussi, mais là, en l'occurrence, c'était en soutien aux femmes polonaises qui viennent donc de faire face à une nouvelle législation. Voilà, en fait, parce que confortée par l'arrivée au pouvoir du parti ultra-conservateur Droit et Justice, l'Église polonaise et les organisations anti-choix lancent une bataille pour durcir la législation encadrant l'avortement dans le pays qui connaît déjà les lois les plus restrictives en la matière en Europe. Concrètement, la nouvelle loi augmentera la répression de l'avortement en portant à 5 ans la peine de prison encourue par les femmes et les médecins qui interromperaient une grossesse. L'avortement sera également interdit en cas de viol, de malformation fœtale ou si la personne est mineure. Les féministes polonaises appellent à de larges mobilisations dans les maximums de villes européennes pour les soutenir. Parce que rien n'est acquis en Pologne comme ailleurs, le collectif de défense de l'IVG dans le Rhône a souhaité marquer sa solidarité avec les Polonaises et les Polonais et poursuivre le combat féministe pour le droit à disposer de son corps. Ce rassemblement, donc, à la place des Terreaux, ce dimanche dernier, 2 octobre à 18h, a rassemblé entre 100 et 200 personnes. Et il y a eu donc une prise de parole de la part du collectif IVG, deux prises de parole de deux militantes. Puis des photos ont été prises devant les banderoles armées de cintres et de messages de soutien. Voilà, et c'est aussi, pas que en France, mais bien sûr en Pologne, que des milliers de femmes ont manifesté, donc lundi, le lendemain de notre rassemblement, dans les rues de Varsovie pour défendre leur droit à l'avortement. Elles ont marché dans les rues vêtues de noir pour symboliser le deuil de leurs droits reproductifs. Cette grève des femmes, appelée lundi noir par les organisateurs, s'inspire d'un événement similaire qui a eu lieu en Islande en 1975. Une manifestante a expliqué à des journalistes que, je cite, « trop c'est trop, il y en a assez de ce gouvernement. L'Église et les soi-disant pro-vie veulent imposer aux femmes. Ils veulent faire passer une loi anti-IVG qui condamnerait les femmes à mourir dans beaucoup de cas. Cela retirera leur sentiment de sécurité et les options de soins disponibles qui existent quand une grossesse met leur vie ou leur santé en danger. » Fin de la citation. Voilà, ça fait un moment que déjà la scène politique polonaise est balayée par une vague de conservatisme et de nationalisme. En fait, depuis l'arrivée au pouvoir du PIS, donc le parti Droit et Justice, en octobre 2015. Il y a plusieurs autres partis d'extrême droite européens, comme en France le Front National ou Alternative für Deutschland, désolé pour mon accent à couper au couteau, en Allemagne, qui ont pris des positions penchant vers une interdiction de l'avortement. L'Espagne est elle-même passée tout près d'une interdiction de l'IVG il y a 2 ans seulement. On avait d'ailleurs fait une manifestation de soutien à cette époque-là. Voilà, donc vigilance constante pour les femmes face à la réaction sur leur droit à disposer de leur corps. Et on reste attentif à ce qui peut se passer dans les semaines à venir.
Ouais, c'est vrai que le collectif avait fait un gros boulot sur ce qui se passe à Lyon, notamment parce qu'il y avait des restructurations avec des pertes de personnel, etc. Donc ça se passe ici aussi, mais ça n'empêche pas du coup d'être solidaire au niveau international, voilà, forcément sur ce qui se passe ailleurs. Et si vous êtes intéressé pour écouter quelques interviews de militantes, justement, peut-être celles qui sont intervenues lors du rassemblement, je sais qu'il y a des camarades du Canu Info du vendredi qui ont fait des prises de son et qui devraient du coup passer tout ça dans deux jours, du coup Canu Info à 19h. Voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus encore sur ce sujet-là.
À savoir que, oui, on parle des changements institutionnels, mais en France, la situation est aussi menacée par les médecins eux-mêmes qui, souvent, l'ordre des médecins aussi a un rôle à jouer là-dedans, mais empêche concrètement les avortements, parfois en outrepassant leurs droits et en discriminant les personnes souhaitant avorter.
Ouais, parce que malheureusement, ça reste un acte militant même pour les médecins, alors que c'est quelque chose de normal pour tous les médecins en fait, mais ça reste un acte militant et du coup le problème c'est quand après ils partent à la retraite ou qu'ils ne sont pas remplacés, bah, du coup ça pose des gros soucis au niveau voilà, de qui va le faire et est-ce que la personne va être bien accompagnée, etc. etc. Ça pose plein de problématiques derrière. Du coup on va se faire cette petite pause musicale, la première.
Allez, on va écouter Jeanne Chéral qui nous interprète « Quand c'est non, c'est non ».
Toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission des militantes et militants de la coordination des groupes anarchistes. Et après cette pause musicale, nous allons passer à un premier jet de lutte sociale. Radio Canu, bien évidemment.
Allez, c'est parti pour la ville de Bonneville de Vénissieux. C'est une suite. Hein, il se passait des choses à la clinique des Portes du Sud. C'est une grève hein, donc, qui avait démarré le 12. le 12 septembre, qui a duré une dizaine de jours, oui, puisqu'on est toujours dans les luttes de septembre, hein, là, hein, on est, voilà. Donc, qui a duré 10 jours, la direction a finalement abdiqué, c'était le 22 septembre, quelques améliorations dans les conditions de travail, le brancardage par exemple, une prime aussi d'urgence qui sera versée, du renfort au moment des pauses, mais sans embauche, et des réunions pour l'organisation du travail. Voilà, donc le fin mot, ben c'est, on l'a compris, hein, c'est toujours économie, économie, économie partout. Donc le paiement intégral des journées de 12 heures, par exemple, n'a pas été résolu. Et cependant, ben, les grévistes sont satisfaits quand même de leur lutte et du dialogue social. Ben, tant mieux. Pour signaler aussi, donc, après ça, la couardise, le manque d'humanité des directions des grosses sociétés, des grosses entreprises, hein, le je m'en foutisme, même, je dirais, c'est une réputation qu'ils se sont faite depuis pas mal d'années, comme ici, chez Lu, à Cestas, en Gironde, avec une fuite d'azote qui s'est passée dans un atelier. Une salariée qui a été retrouvée quand même inanimée au sol. Alors, alerte, l'azote, c'est dangereux. C'est un gaz très dangereux même, donc pompiers, périmètre de sécurité, etc. etc. La direction, dans ce cas, n'a pas jugé pertinent de faire évacuer les lieux et même a quasiment obligé que les salariés restent à leur poste, bien que les pompiers n'aient pu déterminer l'étendue de la fuite. La sécurité est notre priorité. C'est un petit panonceau qui est affiché un peu partout sur les murs de cet établissement. Mais la santé des salariés passe évidemment après la production. À Morez, dans le Jura, eh ben ça va mal pour les 220 salariés de cette entreprise Logo, hein, qui est un lunetier. Il y a même 20 salariés à Lyon, d'ailleurs, qui sont dans la même situation. Cette entreprise risque le dépôt de bilan en redressement judiciaire quand même depuis mai de cette année. Logo bosse et fournit sa production à LVMH pour 97% donc de cette production pour la filiale donc de LVMH Tag ER. Or, le groupe du luxe fait d'énormes bénéfices et en veut plus. C'est la règle d'or, en fait. Et de fait, ben, laissera tomber Logo pour un coût moindre de production. C'est la loi du marché. 220 chômeurs de mieux, plus les sous-traitants et sous-traitantes, donc emploi direct et indirect, comme on dit, pour autant de personnes. À Morez, ben, il y a 7000 habitants. Précision aussi, c'est que la filière de la lunetterie a perçu dans la région, hein, a perçu des aides afin que la production reste sur place et évite les délocalisations, donc c'est pas gagné. Mais la loi des actionnaires est la plus forte que les 400 manifestants le 20-09, le 20 septembre qui ont défilé dans les rues et qui ont adressé un SOS à Monsieur Hollande. Courage. Aubervilliers maintenant dans le 9-3, bah, ça sent bon Paris évidemment, hein, c'est tout proche. Et ça sent bon également la grève au collège. Au collège Jean Moulin, rentre ici la grève. Donc Jean Moulin et cela depuis le 15 septembre. Deux ans qui, il et elle, en ont marre. C'est, je parlais des agents et agentes de ce bahut, de se taper des corvées de ménage, de cantine, d'accueil, et j'en passe avec un effectif peu approprié à ces exercices journaliers. D'autant que la surface du collège est passée de 1200 m² à 1800 m² par agent. Qui plus est, les charges de travail augmenteraient. Alors donc, ras-le-bol, sept agents ont grévé le 15 septembre, suivi en partie par les enseignants et enseignantes, le 15 et le 26, et ensuite les parents qui se sont joints, donc qui ont pris le train des mécontents et mécontentes. Ça aura amené au moins à resserrer les liens dans la sphère du collège Jean Moulin. À Grenoble, c'était le 29 septembre, et c'est RESF qui est monté au créneau, qui est même monté au combat, avec un rassemblement contre une expulsion qui vise un père d'une famille venue de RDC, c'est-à-dire République démocratique du Congo, avec les enfants, qui sont scolarisés. Réfugié politique depuis 2011, il a été débouté de sa demande de régularisation. En août dernier, il est arrêté. Son expulsion vers le Congo a été stoppée net dans l'avion grâce aux passagers et aux passagères. Ça, il faut toujours le signaler. Et devant la révolte, eh ben, les flics ont été forcés d'annuler le retour, entre guillemets. Depuis, sa vie se passe dans un CRA avec la crainte d'être à nouveau expulsé à tout moment. D'où cette grosse mobilisation à Grenoble. On revient sur Cestas, donc en Gironde, et toujours la maison LU, hein, donc je parlais tout à l'heure, non, j'en ai parlé tout à l'heure, oui, mais c'est tout à fait autre chose là, puisque ce sont 60 salariés qui étaient en soutien, en grève d'un des leurs, qui a été licencié pour simplement un petit quart d'heure d'absence. Donc une assemblée générale a réuni 40 salariés de l'équipe du matin. Et toute cette réunion s'est faite à l'air libre, puisque c'est-à-dire qu'elle s'est faite devant l'usine où on a finalement tout déballé. Merci patron, finalement, pour que les ouvriers se retrouvent en lutte. Les conditions de travail, les heures supplémentaires, le travail du week-end, le travail le jour férié, etc. etc. Qu'est-ce qu'ils doivent se mettre dans la fouille, donc les actionnaires de l'U depuis le temps? On se rappelle évidemment qu'il y a eu cette grosse bagarre du côté de Paris quand ils ont licencié je ne sais combien de milliers de travailleurs et travailleuses. Les bureaux de la direction ont été ensuite investis et la réintégration exigée. La direction a refusé, mauvaise pioche, puisque les grévistes ont des biscuits pour la suite. Et donc je dirais, pour finir, à suivre donc cette histoire à Cestas.
Ouais, et puis une petite lutte pour finir le premier jet là sur l'hôpital du Vinatier, avec un cri d'alerte des personnels Requet. Je suppose que c'est un des bâtiments de l'hôpital. Donc nous, personnels de Requet, poussons un cri d'alarme. Les conditions de soins et d'accueil ne cessent de se dégrader. Nos conditions de travail sont tellement difficiles qu'elles ne permettent pas d'assurer une sécurité et une prise en charge nous permettant d'être fiers de notre mission. Le manque d'effectifs soignants et médical amène une pression et un épuisement professionnel qui rend de plus en plus difficile notre mission. Nous revendiquons 4 soignants par poste avec une présence médicale psychiatrique renforcée. Nous voulons avoir les moyens de réaliser les soins. Nous, personnels de l'unité Requet, ne pouvons plus travailler avec un nombre d'accidents de travail importants, dont 19 accidents par agression en 2015, 3 accidents par agression en septembre 2016. C'est une équipe soudée qui s'exprime et dit à la direction, cela ne peut plus durer. Nous refusons de cautionner l'aggravation de ces situations, nous refusons de prendre des risques qui mettent en danger les patients et nous-mêmes professionnels de toute catégorie. Par ce courrier ouvert, nous faisons valoir publiquement, monsieur le directeur, notre cri d'alerte qui, jusqu'à présent, était confiné dans des réunions stériles. Monsieur le directeur répondait et validait nos revendications, qui sont celles de personnels qui ont une conscience professionnelle et un attachement aux soins de qualité. Pour soutenir notre démarche, nous avons réalisé collectivement un document, donc vous pouvez trouver sur le net. Voilà, l'équipe de Requet est soutenue par le syndicat CGT là-bas. Vous pouvez aller sur le site du coup de la CGT Vinatier et vous renseigner un peu là-dessus. Voilà, ils demandent du personnel en plus, c'est mal barré, vu que je crois que j'avais vu, il n'y a pas... Aujourd'hui, je crois qu'ils allaient supprimer 22 000 postes dans l'hôpital public, je crois, notamment. Donc voilà, donc ça fait encore du monde en moins et de la prise en charge moins bien assurée par les professionnels. Je ne sais plus ce qu'on avait prévu après.
Encore quelques violences policières.
Ah oui, c'est vrai, du coup, je voulais juste faire un petit point, parce qu'il y avait un article qui avait été mis sur Parut Info, qui est assez intéressant, parce que du coup, il y a encore des gens qui nous répètent que non, la police est là pour nous protéger, et non, la police répond juste à des provocations. Donc c'était un petit compte-rendu, en fait, de la street medic sur Paris, sur la manif du 15 septembre. Donc il y a tout un exposé un petit peu de la tactique policière, c'est-à-dire de se mettre devant le cortège, de l'entourer à droite à gauche, de plus en plus se resserrer, de mettre la pression, d'arrêter le cortège, tout ça pour faire péter un peu tout ça. Et là, c'était juste du coup... le bilan en fait de cette street medic, donc c'est une parmi tant d'autres dans la manif de Paris, pour vous dire un petit peu le nombre de blessures qu'il y a eu, et je le répète bien, c'est pas une liste exhaustive. Donc des projectiles de grenades de désencerclement, on sait que du coup ça a quand même fait polémique pendant tout le mouvement avec des blessés graves, et ça continue, entraînant chez au moins 11 militants militantes plaies au tibia, mâchoire, nez, front, cuisse ou au bras. Une personne ayant des plaies au bras suite à des tirs de flashball ainsi qu'une perte d'équilibre suite à l'explosion d'une grenade à proximité d'elle. Un hématome recouvrant les trois quarts du mollet d'un journaliste. 4 personnes ayant des hématomes au genou et au tibia dus à un palais de lacrymogène. Des coups de matraque ou tonfa entraînant des plaies au bras et au crâne chez 5 militants militantes. Des tirs de flashball entraînant chez 4 personnes des hématomes aux jambes, genoux. Des tirs de flashball entraînant chez 4 personnes des plaies à l'abdomen, à la cheville ou à la cuisse, 5 crises d'asthme, 7 crises de panique, un malaise vagal, une douleur à la poitrine suite à un tir de flashball, 6 personnes ayant des brûlures au bas-ventre dues au choc avec des palettes lacrymogènes ou des éclats de grenades de désencerclement, une personne ayant reçu des coups de tonfa au niveau du dos entraînant des bleus et douleurs, une personne touchée à la hanche par un projectile de grenade de désencerclement entraînant un hématome de 10 cm de diamètre à l'impact de celui-ci, une plaie au genou et un malaise hypoglycémique d'une personne diabétique à qui les forces de l'ordre avaient confisqué son matériel de soins, l'insuline, une personne ayant reçu des coups de tonfa à deux reprises au niveau du dos et des côtes, une grenade assourdissante explosant à ses pieds causant une surdité momentanée, et ayant reçu un projectile au niveau de l'œil abîmant ses lunettes provoquant un bleu près de celui-ci, de l'œil, hein. Et après, il y a eu la liste de des évacuations par les pompiers, donc coup de matraque entraînant des difficultés respiratoires chez une personne avec des antécédents cardiaques, une personne ayant reçu un tir de LBD dans la poitrine, une autre ayant une grenade explosant à proximité de sa tête, encore une autre ayant une fracture du pied, de la cheville et ayant reçu un tir de LBD dans le ventre, un homme ayant reçu des projectiles de grenade assourdissante dans l'œil, malheureusement nous pouvons affirmer la cécité de cet œil, un jeune homme ayant reçu des coups de matraque dans la région abdominale et une grenade dispersive ayant explosé à proximité de sa tête, entraînant un gros mal au crâne, une surdité à gauche et une perte de conscience. Donc voilà, vous savez, c'est juste pour une manif, hein, c'était sur Paris, donc dans toutes les autres villes, il y a aussi des blessés. Nous rappelons qu'être street medic ne permet pas d'éviter les coups de tonfa, les blessures après les tirs de grenades lacrymogènes ou de désencerclement, ou les tirs de flashball LBD, et que nous, souvent, nous devons aussi prendre en charge nos camarades. Un blessé se rendant aux urgences a pu voir une quinzaine de personnes admises pour des blessures post-manifestation. Et donc, il précise que ce communiqué a été rédigé par certains street medics présents à la manif du 15 septembre 2016 à Paris, à son débriefing, et que par conséquent, il ne prend en compte que les violences qui y sont recensées et n'est pas représentatif de l'intégralité des violences commises ce jour. Et ils finissent par « Nous ne sommes ni sauveuses ni sauveteurs, juste des manifestants-manifestantes qui se préfèrent debout qu'à genoux. La solidarité est notre arme. » Et donc, c'est signé des street medics le 15 septembre 2016. Donc voilà, encore pour ce petit rappel, s'il fallait encore en rajouter sur les violences policières.
Si on peut dire, par rapport aux street medics, il n'y a pas si longtemps, il y a eu des arrêtés de poser dans certaines villes avec des inculpations de personnes parce qu'ils portaient une croix rouge sur eux. Et du coup, avec des flics qui leur expliquaient que maintenant c'était interdit et qu'ils n'avaient pas le droit du coup de porter un symbole comme ça, puisque c'était du coup un symbole médical et qu'ils n'avaient pas forcément de formation, et qu'en plus ils n'étaient pas dans un endroit où ils avaient le droit de l'exercer.
Ce qu'ils disent, en fait, l'argument de base, c'est, si je me souviens bien, c'est un symbole protégé par la Convention de Genève. Donc c'est assez rigolo de la part de personnes qui ne respectent pas, qui sont au-delà du droit de la guerre, dans une situation qui est bien en deçà d'une guerre, qui nous parlent de la Convention de Genève. Quoi.
C'est beau.
C'est un peu, voilà. On parle d'hôpital, de charité, ouais, tout ça. Quoi.
Ils sont formidables. Vous avez le cahier, je ne me souviens vraiment plus de ce qu'il y avait prévu après.
Eh bien, c'était de la musique.
Hein. Eh bien, allez, on y alors. Ouais.
Tout bonnement, de la musique. Une petite musique avec le groupe Yabasta, qui nous interprète FTP.
On fera quelques brèves antifa après, pour ça aussi.
Eh bien, voilà.
On ne pousse pas avant le début de la chanson.
Oh. Allez, vous écoutez.
FTP dans tous nos quartiers.
bonsoir à toutes et à tous, c'était Ida Noir sur Radio Canu, l'émission de la coordination des groupes anarchistes, et on va attaquer ce qui nous amène souvent dans la rue, c'est de l'antifa, quoi.
Ah. Ouais, du coup on va parler un petit peu de ce qui se passe dans plusieurs villes de France. On vous a dit qu'en début d'émission il y avait une manifestation, un rassemblement déjà à Montpellier ce samedi à 14h, parce que du coup de l'autre côté il y avait une manifestation appelée par la Ligue du Sud et les identitaires contre l'installation de quelques migrants et migrantes qui sont fait virer de Calais et qui sont dispatchés comme un peu du bétail sur le reste du territoire. Ça va bientôt être le cas à Lyon, je pense que on aura bientôt nos petits groupuscules fachos de Lyonnais plus le FN qui va sûrement organiser ça aussi, avec en tête de pont peut-être Laurent Wauquiez, le président de la région Rhône-Alpes. Et donc, comme je vous disais, il n'y a pas qu'à Lyon, il n'y a pas qu'à Montpellier. Il y a aussi à Bordeaux. Alors, je vais vous lire le petit communiqué du collectif antifasciste Pavé Brûlant de Bordeaux. Bon, je vous lis texto. Des fois, il y a des petits trucs qui piquent les yeux, mais c'est les collectifs antifa, des fois ça pique un peu les yeux. Bordeaux, succès du rassemblement en soutien aux migrants et migrantes et contre le FN. Jeudi 29 septembre à 18h30, ce sont près de 250 personnes, militants, militantes de la cause antifasciste, syndicalistes, féministes, lycéens, lycéennes, étudiants, étudiantes, travailleuses, travailleurs, qui se sont rassemblés par vie des droits de l'homme à Bordeaux à l'appel de notre collectif pour s'opposer au rassemblement anti-migrants et migrantes du Front National. Il faut souligner que cette manifestation s'est construite en seulement 2 jours, ce qui démontre le potentiel de mobilisation sur Bordeaux pour mener la lutte antifasciste et antiraciste. En face, donc, 80 fachos pitoyablement parqués et protégés par un déploiement considérable de flics, 7 camions de gendarmerie mobile, baqueux, bleus en pagaille, les caciques frontistes, je ne sais pas, les caciques... Les caciques frontistes locaux, donc il y a les noms, Jacques Colombier, Sandrine Chadourne ou Gonzague Malherbe, étaient ici accompagnés de leurs troupes vieillissantes et de leur SO bas du front. On aura aussi noté la présence de la petite troupe étudiante de l'Action française, qui se multiplie un peu dans toute la France, en tenue de parade, foulard et casque, une tenue de combat d'autant plus facile à arborer pour eux qu'ils et elles se sentaient protégés par la police. Ouais, La pression policière ne nous a cependant pas empêchés d'être tous et toutes rassemblés derrière les banderoles pour une société sans peur, Welcome Refugees et féministe Antifa, pour rappeler aux fascistes et aux racistes que les rues de Bordeaux sont et resteront Antifa. À noter l'initiative solitaire d'un obscur résistance Antifront 33, structure créée par des cadres du PS début septembre et qui a rassemblé une petite trentaine de personnes place Jean Moulin, posture électoraliste qui ne nous fera pas oublier le traitement scandaleux que leurs camarades Valls et Cazeneuve réservent aux migrantes et migrants de Calais. Merci en tout cas à toutes les personnes qui ont répondu à notre appel. La gestion de ce rassemblement s'est faite jeudi soir de façon spontanée, collective et déterminée. Ne baissons pas la garde, les jours qui viennent nécessiteront que nous nous remobilisions. A priori là-bas il y a une action islamophobe du SIEL, S-I-E-L, là, c'est un truc un peu parallèle du FN, le 6 octobre, donc c'est demain, waouh. Une réunion publique de Zemmour le 13 octobre, ça qu'ils aiment bien recevoir là-bas Zemmour à Bordeaux, et un meeting identitaire le 15 octobre, comme quoi il n'y a pas qu'à Lyon qu'il y a des merdes. Du coup, voilà, ils enchaînent 3-4 trucs en une semaine. Et donc, continuons à construire sur Bordeaux un large mouvement antiraciste, antifasciste et féministe. Le collectif Pavé Brûlant, voilà, je vous conseille quand même d'aller voir sur leur petit site, il y a des choses assez intéressantes sur leur blog du collectif Pavé Brûlant. Et puis on va aller maintenant du côté de Privas en Ardèche, et avec un peu la même chose. Donc le titre de l'article c'est « Raciste de riposte laïque, no pasaran ». C'est une véritable campagne des extrêmes droites FN, riposte laïque, identitaire, qui a lieu au niveau national pour affirmer leur haine de l'autre. Le 13 septembre, le FN appelait à manifester contre l'accueil de réfugiés à Alex, dans la Drôme. Ce vendredi 30 septembre, ce fut à l'appel d'un dissident du FN, proche de riposte laïque, élu à la mairie de Viviers, qu'un rassemblement eut lieu à Privas, en Ardèche. Cette manifestation aurait dû débuter devant le lycée Vincent d'Indy, où des lycéens s'étaient organisés pour défendre un étudiant sans papier en 2014, afin d'y diffuser leur message haineux. L'information a très vite circulé grâce aux syndicats, aux professeurs, aux associations d'aide aux migrants et migrantes et au collectif Antifa. La préfecture a interdit la manifestation au départ du lycée, mais a autorisé un rassemblement en face de la préfecture. Encore plus pitoyable qu'à Alex, il n'était qu'une petite quarantaine à vomir leur haine nationaliste et raciste. En face, fort de plus d'une centaine de personnes, les Ardéchois et Ardéchois au cœur fidèle, ont prouvé leur attachement aux principes d'accueil et d'humanisme en soutien aux migrantes et migrants et à la richesse de la diversité culturelle. Un no pasaran repris par toutes et tous, scandé avec force, a visiblement énervé la police qui a violemment refoulé les citoyennes et citoyens afin que les forces régressives puissent s'exprimer sans obstacle. En effet, nos voix trop nombreuses couvrant les discours xénophobes et guerriers des fachos. En ces temps où la guerre ne fait que s'étendre, engendrée par des stratégies géopolitiques dont sont partie prenante nos gouvernements, où les catastrophes climatiques aggravent des situations économiques fragiles dont les pays riches sont à l'origine, nous voyons les victimes s'écraser contre les murs que nos gouvernements érigent, tant physiquement que dans leurs discours. On ne peut que faire appel à la mémoire collective, au CNR, tant commémoré mais tant ignoré des politiques nationales, que ce soit sur l'économie, le travail, la liberté de la presse, la liberté individuelle. Il nous faut être vigilantes et vigilants et démontrer qu'il n'y a pas et qu'il n'y a jamais eu qu'une France. La France est multiple et celle que nous défendons est celle de l'égalité, blablabla, blablabla. C'est le collectif un peu unitaire. C'est en répartissant de façon égalitaire les richesses, en traquant toute discrimination de race, de classe, de genre, de sexualité, de culture, en développant des outils d'émancipation que nous parviendrons à les vaincre. T'amuses bien avec ton micro. Ouais. Donc du coup voilà pour cette petite brève, aussi pour vous dire qu'à Lyon, bah, y a un nouveau local qui a ouvert depuis samedi dernier officiellement. Voilà, on suppose qu'il existait depuis plus longtemps que ça, mais que du coup maintenant il est ouvert au public officiellement. Voilà, un petit local du GUD, hein, comme quoi on peut faire partie du GUD et même ouvrir un bar et être autorisé en plein centre-ville. Donc du coup voilà, bah, forcément il y a eu un rassemblement voilà, pas très réussi samedi dernier, où il y a peu de monde qui est venu. Aussi, ça a été appelé un petit peu à l'arrache. Donc du coup, il y aura sûrement d'autres mobilisations qui seront appelées, pas forcément contre ce bar-là, mais globalement, voilà, sur tout ce qui peut entrer dans notre champ de lutte antiraciste. Voilà, tout en sachant qu'il faudra faire très attention, parce que du coup, avec encore un bar ouvert et du coup un accueil au public, ça veut dire un lieu pour faire des formations, pour faire des concerts, pour faire des sous, pour leurs militants, voilà, et pour faire des sorties en ville, pour un peu cartonner tout ce qu'ils trouveraient. Donc voilà, on va peut-être retourner dans une petite période un peu pénible, comme on avait connu entre 2010 et 2014. Donc voilà, donc à chacun et à chacune de faire attention, puis de se mobiliser collectivement, voilà, pour faire face assez crétin. Voilà, on voit, il y a un article sur la Horde, que vous pouvez faire aussi un petit tour sur la Horde. Voilà, on a hérité malheureusement d'un élément voilà, dont on aurait bien aimé se passer, mais du coup qui est interdit de séjour en Île-de-France. Donc du coup il s'est dit, mais où je vais aller, je peux plus aller en Île-de-France, et ben du coup je vais venir à Lyon. Voilà, donc
où est-ce que j'ai pas mal de copains,
voilà, exactement. Donc on suppose qu'il joue un rôle aussi un peu moteur là-dedans, hein, pour Logan, pour pas le citer. Donc du coup vous pouvez voir, il y a un petit article sur la Horde qui est pas trop mal fait. Vous pourrez apprendre du coup qu'il y a aussi, et ben, un magasin de tatouage à éviter dans le vieux Lyon, et également un magasin de vêtements à éviter, ou on va faire autre chose si vous en avez envie. Donc voilà. Je t'enchaîne du coup sur la deuxième partie des luttes sociales.
Mais je suis prêt.
Eh ben allons-y,
voilà,
gaiement.
Avec quelques luttes encore. Hein, voilà, ça ne s'arrêtera jamais. Donc à Bellac, enfin c'est en Gironde. Avec toujours les mesquineries de la direction de La Poste qui ont amené, et c'est bien fait pour eux, pour cette direction, un rassemblement dynamique, combatif, de soutien des postiers et postières. Alors je dirais Covalis, ben, c'est une factrice de Bussière Bofi qui a écopé d'un conseil de discipline après avoir été menacée de licenciement. Elle risque 3 mois de mise à pied. Alors Covadis, eh ben, a-t-elle déchiré une chemise ? Que nenni ! Son crime ? Eh ben, elle a réceptionné avec une procuration, pourtant, un courrier recommandé pour une collègue malade et loin de son domicile. Point à la ligne, c'est tout. Énorme. Donc, la direction considère qu'elle a enfreint le règlement et refuse toute amnistie ou annulation de procédure. Et ça pourra toujours, évidemment, décourager les bellicistes, entre guillemets. Et bien là, encore une fois, mauvaise pioche pour la direction. À Besançon, ben, c'est un magasin Lidl qui est l'idéal. Hein. 15 employés en grève, 100% de grévistes. C'était le 27 septembre. Et là, je dirais, Kézako, et ben, qu'est-ce qui se passe, et ben, un soutien une fois de plus, et ce n'est pas de trop pour une collègue aussi responsable de magasin que la direction Lidl veut muter arbitrairement. Et la cause, ben c'est un chiffre d'affaires du magasin donc qui est en dessous des prévisions. Les objectifs, ben, ça a déclenché évidemment la révolte et son cortège de jamais dit, c'est-à-dire ben, le manque de moyens, les revendications autrement dit, hein. ce qui n'avait jamais été fait d'ailleurs dans ce magasin. Donc manque de moyens, polyvalence à tout va, effectif manquant, contrat précaire, charge de travail, etc., etc. Et puis à Marseille, eh bien, c'est une nouvelle victoire des salariés, employés, dames de chambre, hein, comme on dit, en lutte depuis la mi-septembre. Elles entretenaient donc les locaux de Apart City Euromed France. C'est une résidence hôtelière low-cost. Fin de conflit donc avec leur employeur Net Hotel Service qui a fait suite à Samzik. Je suis d'une précision diabolique moi là-dedans. Hein. Donc qui est l'ex-employeur. C'est un protocole donc le protocole de fin de conflit qui a été signé fin septembre. Elles ont obtenu le paiement à l'heure et non à la tâche. Prime de panier à 8,80€. Par jour, qualification AS3 de la propreté, de la branche propreté, augmentation des mensualisations des contrats, prime de 250€ de reprise pour les jours grévés, mise en place d'un 13e mois, alors qui reste quand même à négocier, mais elles tiennent bien, elles tiennent bon. Employés, la reprise donc, des employés qui étaient en CDD. Et il y a eu, il faut le signaler, un important soutien auprès d'elle. Il y a eu celui surtout de la CNTSO, évidemment, et puis une caisse de grève aussi qui a bien amélioré l'ordinaire. Cholet maintenant avec une grève chez Jackie Perreno, c'est le transporteur type familial. Les salariés bien sur les nerfs dans cette entreprise ont débuté leur grève en cette fin septembre, 18 personnes sur 39. Revendications, bien des embauches, une hausse de leur salaire de 3%, des locaux propres, modernes, pour des conditions de travail. À cette date, point de communication médiatique de l'employeur, le dénommé Jackie en question. Alors, une grève limitée maintenant, encore une fois, à la Poste. Donc, c'est une nouvelle. Enfin, quelle nouvelle ? Plusieurs bureaux, s'il vous plaît, à Osgore, à Cap-Breton, à Saint-Vincent-de-Tyros. Vous avez compris, on est dans les Landes. Il et elle dénoncent leurs conditions de travail suite à une réorganisation. Le sujet, ce thème est récurrent de ces luttes sociales postales. Les grévistes en appellent toujours aux usagers, donc pour le service public. 13 communes étaient impactées par cette grève dans les Landes. Et il y a eu à peu près la même cause donc au Havre, avec 100 salariés qui étaient en grève 13 jours hein, au 27 septembre sur la plateforme. Ici, c'est une pause qui est en question, une pause de 12h à 12h45 qui au final allongera les tournées sans rien amener de mieux aux usagers et aux usagères de la Poste. À Limeil-Brévannes, c'est une grève le 27 septembre, impulsée par Sud Santé, la CGT et FO à l'hôpital Émile Roux du groupe APHP. On appelle ça le groupe maintenant, hein, c'est à signaler, donc l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Alors, on ne va pas s'étendre sur le thème de la grève, ça va vachement bien dans l'assistance publique, à tel point que les personnels de santé font grève pour se rappeler ben, le bon temps, entre guillemets. Récurrence ici aussi, une nouvelle organisation, des négociations sans queue ni tête, bref, grève et piquet dès 6h du matin. Et puis, pour finir, parler et reparler de Smart, le fabricant d'automobiles Smart, après vous... Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Smart ? Ça veut dire Swatch Mercedes Art Car. De l'époque où Mercedes était associé avec les montres Swatch. Voilà. Smart, c'est une sous-marque de Mercedes, hein, on va dire, on va être gentil, hein, c'est une filiale. Et les ouvriers ont le couteau sur la gorge, là, donc les travailleurs, ils ont accepté sous un énorme et scandaleux chantage, et encore là, c'est un euphémisme, un chantage à l'emploi, de bosser 39 heures, payer 35, décision qui a été prise par référendum en décembre 2015. Il y a 800 salariés chez Smart. En fait, le plan est un petit peu plus tordu. Je me suis un petit peu penché sur le truc quand même. C'est 37 heures dès 2016 et 39 heures dès 2017 et sur 3 ans. Et retour à 35 heures en 2021.
On y croit très fort.
Ouais. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Hein.
Et pour anticiper, voilà. Passer à 32 direct, mais voilà. On a vu les 35, ils y reviendront pas.
Et les profits, ben, pour en parler aussi, c'est près de 9 milliards en bénéfices en 2015 pour le groupe Mercedes-Smart, c'est-à-dire plus 23% par rapport à 2014, alors que le chiffre d'affaires est à plus 15%. Alors, ce qui veut dire que, évidemment, les arnaqués là-dedans, ben, on voit bien qui c'est. Hein. Et en tout cas, ce n'est pas les actionnaires qui se gavent avec 33% de mieux sur les dividendes. Voilà pour Smart. Il fallait le savoir, ça. Voilà. Je vous laisse la place, les amis.
Ouais, bah, du coup, on va finir. J'avais un petit truc du coup, sur la loi travail, parce que maintenant qu'elle a été adoptée, que les décrets d'application risquent de sortir de octobre à décembre, et que du coup globalement les syndicats qui appelaient aux grèves maintenant ont abandonné un peu le terrain de la rue pour se consacrer au juridique, voilà, je suis pas sûr que ça marche vraiment. Il y a certains articles qui commencent à sortir sur le net, donc vous pouvez voir sur info comme CGT, là c'est un article que j'ai trouvé sur Paris Lutte Info, voilà, qui était rédigé à l'usage des précaires, chômeurs, chômeuses et salariés qui ont lutté contre ce projet de loi et qui luttent encore. Donc voilà, on va refaire un petit point parce que c'est assez bien fait et du coup ça mettra aussi un peu peut-être d'arguments encore auprès de vos collègues qui ne pensent pas que c'est une mauvaise chose. On commence bien sûr par la fameuse inversion de la hiérarchie des normes et la création d'une commission, voilà, qui a 2 ans pour faire des recommandations pour refondre entièrement le code du travail. On vous laisse imaginer ce que ça peut être comme recommandation. Le Conseil constitutionnel aurait dû juger inconstitutionnel l'inversion de la hiérarchie des normes puisque cela est contraire au principe d'égalité inscrit dans la Constitution, mais ce n'a pas été fait. Et donc en clair, pour ce qui est de la durée du temps de travail, des congés payés et des heures supplémentaires, les accords d'entreprise, d'établissement ou de branche primeront sur le code du travail, créant une inégalité des salariés devant la loi. Et la réécriture de la partie législative du code du travail est programmée aussi. Cette mission de réécriture du code est confiée à une, entre guillemets, commission réunissant experts et praticiens en droit social qui devront remettre leurs travaux dans un délai de 2 ans. Donc en gros, c'est la sape méthodique du droit du travail qui ne fait que commencer. On sait aussi que les employeurs auront donc les coudées franches pour faire pression sur les salariés et négocier des dérogations à la loi comme cela les arrange. Donc majoration minimum du paiement des heures supplémentaires à seulement 10%, durée de repos quotidien inférieure à 12 heures, allongement de la durée de travail hebdomadaire en limitant les contreparties, changement d'horaire de salariés à la dernière minute, etc., etc. On peut aussi rajouter du coup que toutes les conventions collectives sont menacées, notamment celle de la 51 qui est déjà bien menacée, et notamment celle aussi de la 66, puisque du coup comme la loi travail va permettre de faire des accords d'entreprise, la convention ne servira plus à rien. Deuxième petite chose, le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. Vous n'arrivez pas à me faire rire, je vais rester sérieux jusqu'au bout de cet article. Risque de limitation donc des activités syndicales ou des capacités d'organisation des salariés. On ne peut pas encore être certain et certaine des conséquences de cette formule énigmatique, s'il en est, qui autorise à peu près n'importe quoi avec un bon argumentaire. Peut-être qu'en plus de disposer de ton temps, ton patron disposera également de l'assurance que tu ne pourras rien dire de mal publiquement de lui ou de la boîte sous peine de sanctions prévues au règlement. Cet article cible surtout le port du voile, mais aussi une chasse à l'expression politique ou syndicale. C'est donc un article bien de son temps, à la fois stigmatisant, islamophobe et répressif. Il y a aussi, troisième petit point, la nouvelle définition du motif de licenciement économique, c'est l'article 67 de la loi. La notion de difficulté économique est désormais définie de manière précise par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique, tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, blablabla. Ces critères dépendent donc de la taille de l'entreprise. S'il y a moins de 11 salariés dans ta boîte, écoute-toi, hein. Un trimestre de baisse du chiffre d'affaires ou de baisse de commandes, et ça peut être licenciement, entre 11 et 49 salariés, c'est 2 trimestres, etc., etc. Donc en gros, dans une PME, tu peux te faire virer quand ton patron veut, pour motif économique, puisque la baisse des commandes suffit à le justifier. Il y a aussi la possibilité de conclure avec des mandataires syndicaux, mandataires hein, du coup, fameux syndicaux collaborationnistes, des accords de préservation ou de développement de l'emploi, donc c'est également ouvert. Le MEDEF dit merci à la CFDT. Donc je vous lis tout ça. Donc l'employeur et les syndicats peuvent par accord d'entreprise modifier la durée du travail sur une période limitée dans le temps, le mode de rémunération des heures supplémentaires, le nombre de jours de RTT en vue de préserver ou de développer l'emploi. L'accord se substituera aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail du salarié. En cas de refus du salarié, le licenciement reposera sur un motif spécifique et bénéficiera du dispositif d'accompagnement applicable en cas de licenciement individuel pour motif économique. Ça va ?
Ça va.
Okay. Il y a aussi la suppression de la visite médicale d'embauche et de la visite biennale, sauf pour les salariés amenés à occuper des postes de sécurité et à risque. Une visite d'information et de prévention au risque professionnel effectuée après l'arrivée dans l'entreprise et pouvant être assurée par le médecin du travail, son collaborateur médecin, un interne en médecine du travail ou un infirmier qui peut se substituer à ces visites médicales. Par ailleurs, en ce qui concerne l'inaptitude, la double visite médicale pour constater l'inaptitude est supprimée. Assouplissement du licenciement pour inaptitude. Donc, il faut savoir que normalement, quand on est embauché dans une boîte, on doit passer une visite médicale, c'est obligatoire. Et surtout, quand on a des soucis, on peut... Un des interlocuteurs ou interlocutrices, c'est le médecin du travail ou la médecin du travail, qui peut aussi, après, intervenir au niveau de la direction. Et voilà. Et quand il y a un directeur, enfin une direction qui décide de te déclarer inapte à ton poste pour diverses raisons, donc avant il y avait une double visite médicale, tu étais passé par deux médecins différents pour avoir un deuxième avis, maintenant il n'y en aura plus qu'une, ce qui assouplira forcément le licenciement. Pour les apprentis, la confirmation légale du caractère libératoire du titre emploi-service-entreprise, de nouvelles expérimentations du contrat de professionnalisation pour les demandeurs d'emploi et des assouplissements du régime des contrats des salariés en atelier et chantier d'insertion, des précisions légales sur les emplois saisonniers, et ça touche un paquet de monde, donc apprentis, chômeurs, chômeuses, handicapés, personnes handicapées, saisonniers, saisonnières. Donc voilà, et il y a aussi la durée légale du temps de travail, effectif à temps complet reste à 35 heures par semaine, mais la loi donc apporte de nombreuses possibilités de contourner cela, notamment les heures supplémentaires. Voilà, c'est désormais l'accord d'entreprise qui fixe le taux de majoration. Donc voilà un petit peu pour cet article-là, vous pouvez aller faire un peu votre tri sur différents sites, il y a des syndicats ou d'autres qui proposent des petites brochures que vous pouvez télécharger, donc vous pouvez distribuer à vos collègues. Donc voilà, par rapport à la loi travail, donc il y aura sûrement d'autres luttes qui vont émerger, mais pour celle-ci, ça semble mal barré. On verra les sorties des décrets d'application qui devraient se faire du coup courant octobre, novembre et décembre. Et voilà, et si le pari de certains syndicats d'aller au niveau juridique, du coup, marchera ou pas. 20h58, j'ai presque rien d'autre à dire.
C'est très bien.
Voilà. J'en sais rien, c'est très bien ça. Après, on verra bien. Hein. De toute façon, on ne sait pas si quelqu'un nous écoute, donc on verra bien.
Hein. Je fais un pessimiste. Un petit coucou à notre copain.
Oui, mais toi, tu es là, tu écoutes, c'est normal.
De chez lui, normalement.
Normalement, tu vérifieras, s'il te plaît. D'accord. On n'en donne pas de nom comme ça à la radio, des gens qui écoutent l'émission. C'est jamais. Après, ça peut être dangereux. On vous rappelle, du coup, pour finir, les permanences de la librairie La Plume Noire au 8 rue Diderot, sur les pentes de la Croix-Rousse, les mercredis de 17h à 19h, les samedis de 15h à 19h. On vous rappelle aussi que les cours de langue pour migrantes et migrants ont repris, c'est tous les lundis soirs à partir de 18h aussi à la Plume Noire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous êtes intéressé pour donner des cours, pour qu'on vous rencontre au moins, pour qu'on se contacte avant. Et si vous avez des personnes qui seraient intéressées pour prendre ces cours, donc n'hésitez pas du coup à les emmener ou à leur donner l'adresse du 8 rue Diderot à la Plume Noire. Donc voilà, écoutez, je crois que j'ai fini moi.
Ça y est, c'est fini.
Ouais, bon,
on va laisser la place du...
à la lumière du frigo.
Qui nous a manqué pendant ces 15 derniers jours, qui n'était pas là.
Voilà, c'est vrai. Mais il est là ce soir.
Il est là ce soir.
La lumière du frigo, on va lui laisser la place. Et si vous aviez quelque chose d'autre à dire, les amis ?
Non, c'est bon.
C'est bon, là ?
Ça va.
Bon, pas de...
Non,
pas de petits messages perso, choses comme ça.
Je ne pense pas. On se calme.
On peut y aller, là.
On sait jamais.
Ah, si on veut nous parler de l'émission, nous donner des, on peut peut-être se.
Par rapport à l'émission, je sais pas. Ouais, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, des remarques, etc., etc. On a une adresse mail. Du coup, c'est groupe-lyon@c-g-a.org. Il y a la page Facebook. Voilà. Je le dis parce que c'est comme ça. On est dessus. Voilà. C'est la vie.
On a Twitter aussi.
Tout à fait. Donc n'hésitez pas. Voilà. Donnez tout ce que vous avez à dire par rapport à l'émission de radio. Puis n'hésitez pas surtout à venir nous en parler en direct lors des permanences de la librairie. Je crois que vous avez assez brodé. Tu peux envoyer le générique maintenant.
Elle est bien.
On peut, pour laisser un peu de temps à la lumière du frigo s'installer, on peut toujours rappeler un peu les
Les annonces, je ne les ai pas sous les yeux, mais donc demain, il y a un rassemblement au tribunal des 24 colonnes. Donc c'est au palais de justice, donc c'est Lyon 5e, hein, c'est vers Saint-Jean, donc avec une personne donc, qui s'était fait arrêter et condamner à 6 mois avec sursis et 14 000 euros d'amende pour avoir lancé une petite pierre sur un poste de commissariat, même pas un commissariat, de poste de police municipale. Et du coup, comme ce n'était pas assez sévère, le parquet a fait appel, donc il y a un rassemblement appelé demain à 13h devant le palais de justice.
Est-ce qu'on a parlé du rassemblement devant le consulat de Turquie le samedi 15 octobre? Je ne connais plus l'horaire, j'ai oublié.
Pas encore, ouais, mais...
Appelé par les syndicats, dont la CGT, et pour protester contre la politique
la répression,
turque sur le Kurdistan et le Rojava, etc.
Et en interne en Turquie, ouais. Voilà. On en parlera sûrement un peu plus la semaine prochaine, parce que je pense que du coup, on aura un petit peu le tract d'appel à tout ça, puis on refera un petit point sur la situation là-bas, ce sera l'occasion. Donc voilà, mais effectivement, vous pouvez déjà réserver votre samedi 15 octobre, voilà, et ce sera du côté du consulat de Turquie qui est, je crois, dans le 6e.
Oui. Ouais.
Rappelez aussi que c'est le 8 octobre là qu'il y a un rassemblement de prévu à Vouanvelin. Alors, je n'avais pas donné l'adresse exacte tout à l'heure, c'est la place Guy Moquet, hein, c'est au Mas du Taureau, voilà, c'est pour protester aussi et défendre et soutenir. Les gens de ce collectif pour les précaires, chômeurs, chômeuses, etc., qui ont un local également, qui risquent de disparaître et de se retrouver à la rue. Il y a aussi cette proposition très sympathique, comme je disais tout à l'heure, c'est de taguer les immeubles.
Vide.
Les immeubles où...
Vide ou pas vide, après vous taguez ce que vous voulez. Mais là, c'est spécifiquement sur les logements.
Taguer avec des pochoirs, qui donc indiqueraient qu'il y a ici...
De la place.
De la place, des logements libres, puisque sur Lyon, on compte 30 000 logements. Et encore, c'est un chiffre qui n'est peut-être pas très exact, c'est certainement plus que ça, et qu'il y a des gens, évidemment, qui sont à la rue sur Lyon et ailleurs.
C'est même beaucoup plus, parce qu'en plus des logements, il y a tout ce qui est bureau, en fait,
bureau,
qui est vraiment énorme.
Voilà. Donc, c'est une proposition qui vient de, je ne sais pas qui.
Ouais, c'est pour des gens d'individus,
qui défendent le logement. Enfin,
pourquoi pas, ça permettra de visibiliser tout ça.
Tout à fait.
Et puis voilà. Et puis on finit par un conseil de bouquin, voilà, comme la lumière du frigo s'installe. J'ai ça sous les yeux. Donc, c'est un bouquin qu'on a à la plume qui s'appelle L'école des réacs publicains. C'est de Grégory Chamba, donc c'est la pédagogie noire du FN et des néo-conservateurs. Je vous lis le petit résumé du livre. Dans le sillage de la manif pour tous, de l'hyper-médiatisation d'Éric Zemmour, de Natacha Polony et d'Alain Finkielkraut, de l'envolée du Front National, la question scolaire apparaît comme un terrain d'intervention privilégié de l'offensive réactionnaire. C'est probablement là que se lisent le mieux les succès de la contre-révolution culturelle et idéologique. Connaître l'histoire de cette, entre guillemets, pédagogie noire, décrypter ses déclinaisons contemporaines pour en révéler les enjeux sociaux est une nécessité, afin de ne pas laisser aux réacs publicains le monopole de la contestation d'un ordre scolaire injuste et déjà trop traditionnaliste. Et donc c'est édité par Libertalia et par nos camarades de notre école qu'on a reçus au mois de septembre à la Plume Noire.
Et qui reviendront.
Et qui reviendront très prochainement.
Nous l'ont promis. Bon, cette fois, on va laisser la lumière du frigo s'installer et passer son excellente musique. Voilà, on vous dit à la mercredi prochain.
La fin de l'émission, pas la fin de la CGA.
Comment tu y vas?
J'ai dit ça, moi.
Ouais, tu as dit ça.
J'ai dit ça, moi. Ah bon. Je suis fatigué.